Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée, c'est avec vous Florence Cohen, bonjour.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Après ce qu'on connaît, il n'y a pas de personnes malades, quand bien même nous avons suffisamment d'infrastructures pour pouvoir soigner éventuellement s'il y avait un malade.
Un deuxième avion avec à son bord des Français revenus de Chine doit atterrir cet après-midi dans les Bouches-du-Rhône. Ils seront mis en quarantaine à Aix-en-Provence, mais aussi à Carry-le-Rouet, là où sont déjà présents les premiers rapatriés. Le coronavirus est-il réellement dangereux? Nous poserons la question à notre invité Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur. Le gouvernement recule sur la durée du congé des salariés endeuillés par la perte d'un enfant et le secrétaire d'État à la protection de l'enfance fait amende honorable.
Quand vous êtes confronté à un drame comme ça, c'est pas une question de jour. Donc 5, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller à 12. Il faut peut-être aller au-delà.
L'Europe ne veut pas faire de cadeaux à la Grande-Bretagne après le Brexit. Thierry Breton l'a dit ce matin au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Une chaîne humaine de médecins démissionnaires, ils ont jeté l'éponge dans leurs fonctions administratives pour dénoncer l'hôpital qui va mal. France-Angleterre de rugby cet après-midi à 16h au Stade de France. Un combat viril en prévision pour les jeunes joueurs de Fabien Galthié. Journal des sports dans un quart d'heure, signé Christophe Lamar. Et puis cette incroyable douceur pour un jour de Chandeleur. Ce restaurateur de Saint-Jean-de-Luz n'en revient pas.
On a un petit vent de sud qui nous permet d'avoir un superbe temps magnifique. C'est ambiance, douceur de vivre, on prend son temps, on se prélasse en terrasse.
Après 13h, les carnets du monde de Sophie Larmoyer, direction la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Sénégal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un deuxième avion transportant des Français est en route vers la base d'Istres dans les Bouches-du-Rhône où il doit atterrir cet après-midi. Il s'agit du deuxième rapatriement en deux jours. Cet avion contient d'ailleurs une trentaine de nationalités. Vendredi, 182 de nos compatriotes sont arrivés en Chine, de Chine, pour fuir le coronavirus. Ils sont placés pour 2 semaines en quarantaine dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, près de Marseille. Et c'est là, d'ailleurs, que vont arriver également une partie des rapatriés d'aujourd'hui. L'autre partie sera installée à l'École nationale des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. Et il faut bien le dire, ça ne plaît pas forcément aux riverains. Stéphane Frangy, vous êtes sur place pour Europe 1.
Oui, puisque nous ne sommes pas à Aix-en-Provence à proprement parler, mais à l'écart d'une zone d'activité, celle des Milles, qui est elle-même éloignée de la ville, un site à la campagne donc, qui est totalement adapté selon le député Modem de la circonscription, Mohamed Lakhila.
La proximité des, je dirais, des hôpitaux, et donc c'est un centre qui s'y prête. Ce n'est pas un centre de vacances, mais l'accueil sera performant puisqu'il y a des chambres qui sont faites pour les étudiants traditionnellement. Donc là, les étudiants, il y a des stages qui seront probablement reporté pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions de compatriotes sur ce centre. Je pense qu'il faut surtout ne pas s'inquiéter davantage que ça et plutôt rassurer la population. D'après ce qu'on connaît, il n'y a pas de personnes malades, quand bien même nous avons suffisamment d'infrastructures pour pouvoir soigner éventuellement s'il y avait un malade.
Voilà, et ce sont 500 studios individuels à l'intérieur. Et il y a des centres hospitaliers performants tout proches à Aix-en-Provence, oui, mais à Marseille-Nord également. Et puis au besoin, il y a la présence juste à côté d'une petite piste d'atterrissage et d'un héliport.
Merci Stéphane Frangy. Et un premier décès dû à ce coronavirus a été annoncé aux Philippines. Il s'agit d'un homme de 44 ans, originaire de Wuhan, le berceau de l'épidémie. Au total, plus de 300 morts en Chine et 14 000 malades partout dans le monde. Une deuxième ville chinoise après Wuhan vient de se couper entièrement du monde. Il s'agit de Wenzhou, à 800 km de là. Alors on se pose plein de questions sur ce coronavirus et notre invité dans 10 minutes va nous apporter des réponses. Il s'agit d'Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur. Le gouvernement a fini par reculer devant ce drame indépassable. Au départ, il avait demandé à sa majorité de ne pas voter le report de 5 à 12 jours du congé d'un salarié venant de perdre un enfant. Mais le tollé a été tel que le président lui-même a été obligé d'intervenir. Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de faire preuve d'humanité. Et donc, Jean-Rémy Baudeau, cette maladresse, disons-le comme ça, donnera lieu à un nouveau vote ?
Oui, et il y a un point sur lequel la majorité est unanime. Le rejet du texte sur les jours de congé pour les parents qui perdent un mineur était une erreur. Une erreur d'appréciation, glisse un ministre. On a manqué de sens politique, reconnaît un autre membre du gouvernement. Pris dans la polémique, l'exécutif promet de réagir. En début de semaine, des discussions devraient réunir associations de parents, partenaires sociaux et parlementaires. Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, promet de nouvelles pistes beaucoup plus ambitieuses que le texte rejeté. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Quand vous êtes confronté à un drame comme ça, C'est pas une question de jour. Donc 5, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller à 12. Il faut peut-être aller au-delà. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a la question de l'accompagnement psychologique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'accompagnement psychologique que l'on offre aux parents est suffisant pour leur permettre de faire face à ce drame? Il y a des questions financières. Oui. Il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui pour les frais d'obsèques, absolument. Est-ce que c'est suffisant?
En coulisses, beaucoup ne comprennent pas comment une telle situation a pu arriver. Un manque de communication entre la majorité à l'Assemblée et le gouvernement semble la clé. Un des ministres en charge du dossier dit n'avoir découvert le texte qu'au moment du vote, beaucoup trop tard pour traiter une question aussi délicate.
Et ce vote pour désamorcer, entre guillemets, ce sujet aura lieu dans un premier temps au Sénat. C'est un peu un week-end de gueule de bois pour l'Europe après le Brexit. Les négociations vont commencer maintenant entre Londres et Bruxelles pour établir la future relation entre les deux partenaires. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin et il prévient... Aucun cadeau ne sera fait au Premier ministre britannique Boris Johnson.
Ça va être compliqué pour Boris Johnson. En tout cas, les 27 ne seront jamais divisés pendant cette période. Tout va être pris en compte, tout. Et je le redis, le marché dont j'ai la charge, au fond, c'est la libre circulation des personnes, des biens, des marchandises, des capitaux. C'est aujourd'hui ce qui est le plus précieux pour tous les 27 États membres. Donc jamais aucun ne permettra qu'il se fissure. Maintenant, évidemment... Il y a des sujets qui vont être tous traités. Le problème de la pêche en est un. Il s'agit aujourd'hui du fait que les pêcheurs britanniques exportent plus de 50% de leurs prises en Europe pour d'abord la transformation des produits et ensuite évidemment les écouler sur le marché européen. Et c'est pour ça qu'ils souhaitent vivement que ça continue et nous continuerons à les accueillir évidemment pour peu qu'ils respectent les normes.
Thierry Breton ce matin au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Xavier Bertrand, ancien ministre et président de la région des Hauts-de-France, attaque la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron. C'est un fiasco, juge ce présidentiable de 2022 dans le journal du dimanche. Les effectifs de l'opération Barkhane vont être augmentés de 600 hommes au lieu des 220 prévus au départ. Le nombre de soldats français au Sahel va passer de 4500 à 5100. Et on va se retrouver dans un instant avec ce constat pour un 2 février, mais quelle incroyable douceur.
Europe 1.
Il est 12h39, la suite du journal sur Europe 1, Florence Cohen.
Ah, si vous n'êtes pas encore sorti de chez vous, remisez la doudoune, hein, vous allez bouillir. Il fait une incroyable douceur en ce 2 février, jusqu'à 16 degrés prévus sur la moitié nord cet après-midi et 22 dans le sud-ouest. Anthony, restaurateur à Saint-Jean-de-Luz, est tout joyeux.
Il faisait déjà vert ce matin à 9h du matin, donc on a un petit vent de sud qui nous permet de... d'avoir un superbe temps magnifique, donc grosse affluence à prévoir. C'est ambiance douceur de vivre, on prend son temps, on se prélasse en terrasse, on se promène, on va faire un tour au marché, voilà, et puis après petit café, la presse, et puis voilà, on refait le monde et on prend le temps de vivre. Ce midi, ben on va faire de la volaille blanche, on va faire des noix de Saint-Jacques avec un risotto. Donc on fait des choses un peu plus légères, on va dire, en termes de texture et de cuisine. Tant qu'il fait beau, on est de nature à être plus détendu, plus les gens profitent. Après novembre calamiteux, on sent vraiment que les gens ont besoin de profiter en plus. Donc le temps conditionne beaucoup de choses.
Ce restaurateur de Saint-Jean-de-Luz, joint par Sophie Echen, et ses températures printanières ne manqueront pas d'interroger sur le changement climatique. Voilà pourquoi la campagne pour les municipales se fait très écolo. La maire sortante de Paris, Anne Hidalgo, propose de planter 170 000 arbres, des mini-forêts urbaines, des rues entièrement végétales et piétonnes. Par ailleurs, une trentaine de candidats sur toute la France s'engagent pour des cantines sans nitrites. C'est une tribune signée dans le journal du dimanche. Les nitrites allongent la durée de conservation des produits et donnent par exemple leur couleur rose au jambon, mais ils sont accusés d'être cancérogènes. Une chaîne humaine de médecins démissionnaires. C'est en ce moment aux abords de l'hôpital de Bray à Paris. Vous savez que plusieurs d'entre eux ont démissionné de leurs fonctions administratives pour dire à quel point l'hôpital va mal. Mathieu Bock, vous êtes à leur côté pour Europe 1. Ils sont environ 200 et ils se donnent la main.
Oui, ces médecins, infirmiers, usagers se sont donné la main autour de l'imposant bâtiment blanc de l'hôpital Robert Debray à l'appel de Chérine Benzuid, médecin ici et qui a pris la parole au micro.
Cette chaîne humaine est très symbolique. Elle représente juste l'attachement que nous avons, vous en tant qu'usagers ou citoyens et nous en tant que personnel hospitalier, de protéger cet hôpital public, de protéger contre la casse qu'il est en train de subir depuis longtemps.
Laurent est infirmier ici à l'hôpital de Bray. Il est ravi de voir des patients et des citoyens en bonne santé venir former cette chaîne humaine.
On ne le fait pas que pour nous les soignants, c'est vraiment dans le but d'améliorer aussi la qualité des soins pour les enfants. Et pas seulement pour nous, et c'est pour ça qu'on est, là aujourd'hui sur nos journées de repos, pour qu'on puisse défendre les soins et la qualité de soins, qu'on puisse discuter avec les enfants, et pas que 3 minutes avec eux et qu'on parte parce qu'on a d'autres soins à faire.
Le docteur André Grimaldi de la Pitié-Salpêtrière est venu en voisin car la situation est alarmante, dit-il.
J'ai vu à la Pitié-Salpêtrière des chimiothérapies reportées, des interventions chirurgicales reportées. Il s'agit maintenant de savoir si la population veut défendre l'hôpital. Les mesures prises par le gouvernement sont totalement insuffisantes.
Et tous se sont donné rendez-vous le 14 février prochain pour une grande journée d'action nationale pour la défense de l'hôpital public.
Mathieu Bock en direct des abords de l'hôpital de Bray. Le festival de la BD d'Angoulême s'achève aujourd'hui et récompensé par le palmarès. La saison des roses en ce week-end de mise en valeur du sport féminin, c'est tout trouvé. Et Révolution, Mathieu Charrier, vous êtes à Angoulême pour Europe 1.
Révolution est un ouvrage dense, 300 pages rien que pour le premier tome, 300 prévus. Il faut au moins ça pour raconter cet événement historique à travers des figures connues, mais aussi et surtout des anonymes. Une jeune mendiante, un député breton, une commerçante des Halles aussi. Florian Groisel et Youn Locard, qui ont dessiné et imaginé cette histoire, y voient surtout des résonances avec l'actualité.
C'est une re-histoire de la Révolution française, disons, une réappropriation pour nous. On a fini de la dessiner juste avant le début du truc des Gilets jaunes.
Révolution qui repart donc avec le Fauve d'Or. Autre prix prestigieux, le Fauve du public, remis à Chloé Wary pour sa saison des roses, du nom de l'équipe de foot féminine dans laquelle elle évolue, avec son personnage principal, Barbara. Elles vont devoir se battre pour compenser la baisse des dotations. Ça passe par un match contre l'équipe masculine, Chloé Wary.
Le foot, c'est une passion depuis toujours qui était restée cachée, enfouie. Et aujourd'hui, j'arrive à mêler les deux, BD et foot, et c'est juste incroyable.
À noter également le fauve spécial du jury pour Clyde Fans, qui raconte l'histoire de deux frères que tout oppose et qui doivent sauver l'entreprise familiale de ventilateurs menacée par la généralisation des climatiseurs. Une BD au graphisme époustouflant. Au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, Mathieu Charrier, Europe 1.
Allez, on va passer au sport plus masculin, hein, pour tout dire.
Le journal des sports.
Bonjour Christophe Lamar.
Bonjour.
La finale masculine donc de l'Open de tennis d'Australie, un duel entre Novak Djokovic et Dominic Thiem.
La confrontation entre deux générations, celle qui domine le tennis mondial et celle qui cherche à la remplacer. Direction la Rod Laver Arena de Melbourne où l'on retrouve notre envoyé spécial Georges Homsi. Georges, c'est Dominic Thiem qui est devant. Hein.
Effectivement, avantage Dominic Thiem, l'Autrichien mène pas 2-7-1 face à Novak Djokovic, 7 fois vainqueur ici, un Thiem très agressif qui impose une énorme pression sur les épaules de Djokovic par sa longueur de balle, ses énormes effets liftés, mais le Serbe ne semble pas dans son assiette, il a baissé de rythme après le gain du premier set 6-4, il a même fait venir le médecin sur le court au troisième set, il commet beaucoup de fautes directes, 44 pour l'instant, Thiem a remporté les deuxième et troisième sets 6-4, 6-2, 3 jeux à 2 pour Djokovic au troisième, le Serbe s'accroche comme il peut, mais Thiem semble au-dessus, il est peut-être parti Thiem pour remporter à 26 ans son premier titre en Grand Chelem.
Georges Homsi en direct de Melbourne.
Et l'autre grand rendez-vous de la mi-journée, c'est du rugby. Premier match du tournoi des Six Nations, premier choc pour les Bleus de Fabien Galthié.
L'Angleterre vice-championne du monde en titre face au 15 de France. Un test pour le nouveau sélectionneur Fabien Galthié qui a fait le pari du renouvellement à tous les niveaux, dans les méthodes d'entraînement et dans le choix des joueurs. Les Anglais, eux, promettent la guerre. Nous ne sommes pas venus pour prendre une tasse de thé. Attendez-vous à une brutalité totale et absolue, explique le sélectionneur Eddie Jones. Très bien, lui répond en écho Fabien Galthié. Nous les travaillerons donc en férocité.
Attendez-vous à une présence, un engagement optimal. Attendez-vous à des phases de combat féroces. À un terrain qui sera défendu de manière féroce. À des plaquages, à des collisions qui seront féroces. Attendez-vous à une équipe qui ne lâche rien.
Fabien Galthié avec Frédéric Michel. France-Angleterre, coup d'envoi à 16h au Stade de France à Saint-Denis. Hier, l'Irlande a battu l'Écosse 19-12. Les Gallois ont corrigé les Italiens 42-0. Et puis chez les femmes, il y aura aussi un France-Angleterre pour le compte de la première journée du tournoi des Six Nations féminin. Ce sera à Pau au Stade du Hameau, coup d'envoi à 13h30.
Le football, suite de la 22e journée de Ligue 1 avec 3 matchs au programme aujourd'hui.
Nice-Lyon à 15h, Metz-Saint-Etienne à 17h et enfin à 21h. Bordeaux recevra Marseille, une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Europe. pas.
Du côté du PSG, on doit gérer une mini-crise hein, qui pourrait quand même empoisonner l'atmosphère.
Et Kylian Mbappé n'a pas apprécié d'être remplacé hier en fin d'après-midi à Montpellier. Ce n'est pas la première fois que l'attaquant parisien se plaint de sortir. Mais cette fois, la relation avec son entraîneur Thomas Tuchel pourrait en souffrir. Soucieux de préserver la cohésion de son groupe, le technicien allemand a voulu calmer le jeu en conférence de presse, tout en rappelant une évidence, le patron, c'est lui.
C'est pas bien parce que ça ouvre une discussion. Pour moi, je suis pas en colère. Pour moi, je suis triste de cette chose-là parce que c'est pas nécessaire. Et on joue pas du tennis, on joue du foot. Et pour ça, on doit avoir respect pour tout le monde. Et voilà.
Thomas Tuchel avec Julien Froment.
Le reste de l'actualité sportive en bref.
Le ski alpin, l'italienne Federica Brignone remporte le Super G de Sochi en Russie. Elle devance sa compatriote Sofia Goggia et la Suissesse Johanna Allen. La première française Romane Miradoli termine 9e. Et puis chez les hommes, le Suisse Loïc Méliard est en tête à l'issue de la première manche du géant de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Il devance les Norvégiens Christoffersen et Nestvold Hagen. Les Français Pinturo, Mufa-Jandet et Fèvre intègrent le top 10 provisoire et reste des candidats à la victoire. Départ de la deuxième manche à 13h30.
Merci, c'était le journal des sports de Christophe Lamar. On va passer tout de suite à la météo, mais qu'il fait doux en ce dimanche de Chandeleur. Presque pas du tout un temps à manger des crêpes. Les températures sont très clémentes, Valérie Darmon.
Absolument, et conditions printanières de la côte basque au pourtour méditerranéen avec 23 annoncé à Mont-de-Marsan, à Pau et à Tarbes aux meilleures heures de l'après-midi sous le soleil, voilé certes, mais soleil tout de même. 22 à Saint-Giron, à Auch et Perpignan, 21 à Toulouse et à Agen, 20 degrés à Bordeaux et Biarritz, 19 à Nîmes et Montpellier, 18 à Marseille et Toulon, 17 à Angoulême et Clermont-Ferrand, et puis ça se corse évidemment sur la partie nord avec son temps très perturbé, avec de la pluie partout, surtout soutenue dans l'est, du vent du littoral à l'intérieur des terres et de la neige en montagne. Un grand risque, un risque d'avalanche très élevé pour la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance, et des valeurs pour cet après-midi entre 11 à Boulogne-sur-Mer et 16 degrés tout de même à Paris, Strasbourg et Nevers. Des valeurs évidemment au-dessus des normales de saison, au nord comme au sud.
Merci Valérie Darmon. Et on va se retrouver dans un petit instant avec l'invité de cette édition, en la personne d'Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur, qui va tout nous dire, ou presque, sur le coronavirus.
Il est 12h50 et le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre invité Florence Cohen.
Et un invité sur le coronavirus qui s'étend. Hein. On a annoncé ce matin le premier décès hors de Chine, aux Philippines. Plus de 300 morts en Chine et 14 000 cas au total. Bonjour Arnaud Fontanet.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. J'ai une première question extrêmement générale, limite bête. Ce coronavirus, c'est grave, vraiment grave, ou on en fait trop ?
C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre aujourd'hui. Bien sûr, on peut comparer avec d'autres infections respiratoires. En premier lieu, la grippe, qui tue en France en moyenne 10 000 personnes par an, qui dans le monde tue entre 300 et 600 000 personnes par an, et on est très loin du compte avec ce nouveau coronavirus. Maintenant, c'est un nouveau virus qui arrive en population humaine, on ne connaît pas encore son potentiel à long terme. Avec le SRAS, avec des mesures énergiques, on avait réussi à éliminer le coronavirus du SRAS de la population humaine. Il ne circule plus. Et avec ce nouveau coronavirus, l'enjeu est effectivement d'arriver, comme avec celui du SRAS, à l'éliminer.
On va y venir. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de ce coronavirus ? Par exemple, sa vitesse de propagation et ses modes de contamination ?
Alors, sur la vitesse de propagation, on a plusieurs indicateurs. Le plus simple, c'est ce qu'on appelle le nombre de reproductions de base. C'est le nombre de personnes infectées par un malade. Il est estimé à peu près à 2, c'est-à-dire que chaque personne malade va en infecter 2, en absence de mesures d'isolement ou de ce qu'on appelle les mesures barrières de protection. Bien sûr, l'objectif, c'est, grâce à ces mesures, de faire descendre ce nombre de reproductions en dessous de 1. Si chaque personne infecte moins d'une personne, l'épidémie s'arrête. Donc ça, c'est tout l'enjeu pour nous. Et sinon, sur sa sévérité, il est encore difficile de se prononcer. On sait que chez les personnes hospitalisées, il est sévère. Il y a plus de 10% de mortalité. Maintenant, il circulerait peut-être avec des formes plus bénignes. Et si on prend l'ensemble des personnes qui ont été infectées, on peut espérer qu'il serait moins sévère que le coronavirus du SRAS.
Comment il est né, ce coronavirus ? On a l'impression là qu'il est sorti ex nihilo. Il a bien une cause quelconque.
Alors, on sait assez bien d'où il vient parce que maintenant, les progrès de la génétique sont tels qu'on a eu la séquence complète du génome de ce nouveau coronavirus dès le 10 janvier, soit moins d'un mois après les premiers symptômes chez les premières personnes infectées à Wuhan. Comme vous le savez, ces premiers patients avaient eu un contact avec un marché dans Wuhan qui vendait des animaux sauvages. Ça nous rappelle évidemment l'histoire du SRAS, où il y avait eu, là c'était plutôt dans la région de Canton, un contact aussi avec des animaux sauvages vendus dans des marchés et des restaurants. Et grâce à la séquence génétique, on sait qu'il y a un cousin quasiment identique, 96% identique chez la chauve-souris. Ce n'est néanmoins pas la chauve-souris qui a infecté l'homme, mais ce qu'on appelle un hôte intermédiaire, qui est un de ces animaux qui a été vendu dans les marchés de Wuhan. Mais là, on n'a pas réussi à mettre la main sur cet animal.
Alors, on nous a dit un petit peu tout et son contraire sur la notion d'incubation. On nous a dit au départ, oui, mais pendant l'incubation, on est contagieux. Puis on nous a dit, non, pas du tout. Il faut attendre d'avoir des symptômes pour être contagieux. Quelle est la vérité?
Alors, la vérité, on ne la connaît pas encore, mais on a maintenant des éléments supplémentaires par rapport à aux données avec lesquelles on était parti initialement. Alors, l'incubation, déjà, on pense qu'elle est à peu près de 6 jours, maximum pour l'instant 12 jours, ce qui fait que la durée de quarantaine de 14 jours qui est proposée est bien choisie, puisque ça veut dire que si après 14 jours vous n'avez pas développé la maladie, il y a très peu de chances que vous ayez été infecté. Pour revenir maintenant à quand est-ce qu'on est contagieux, c'est la question cruciale. Et on se rend compte maintenant que les personnes peuvent être contagieuses très précocement après le début des symptômes, voire il y a eu des cas bien décrits en Allemagne, des personnes qui ont été contagieuses avant le début des symptômes. Et bien sûr, ça va rendre le contrôle de l'épidémie plus difficile.
Alors, on parle des Français rapatriés de Chine ces jours derniers et encore aujourd'hui. Vous me disiez à l'instant 14 jours de quarantaine, c'est une juste durée. Qu'est-ce qui se passe après pour eux, une fois qu'ils sont déclarés totalement exempts de la maladie en l'état, terminé, on les relâche dans la nature, c'est fini? Ça va bien?
Je ne sais pas qu'est-ce qui va être décidé pour cela, mais effectivement, très logiquement, ces personnes devraient pouvoir rentrer chez eux et reprendre une vie tout à fait normale.
Qu'est-ce que vous pensez des mesures qui sont aujourd'hui prises en France? C'est-à-dire, il y a la quarantaine pour ceux qui viennent de Chine, maintenant on a 6 cas dans le pays. Elles sont suffisantes? On ne les trouve pas très existantes, on a l'impression en tout cas.
Alors, je peux vous dire en tout cas que les services qui sont mobilisés, Santé publique France par exemple, pour le suivi de tous les contacts des patients qui ont été identifiés, etc., ils travaillent énormément. Il y a des équipes actuellement complètement mobilisées. Alors, la stratégie repose effectivement sur, on l'a dit, l'isolement, le suivi des contacts. Et puis, il y a aussi, vous le savez, toutes les souches qui ont été identifiées sont envoyées pour diagnostic à l'Institut Pasteur. On fait le séquençage en temps réel de ces souches qui ont déjà été déposées sur une banque internationale qui nous permettrait, par exemple, si une souche nouvelle arrivait de France sans un contact clair avec la Chine, de la relier à une chaîne de transmission. Non, on travaille énormément là-dessus. Et en tout cas, je pense qu'il y a une vraie vigilance renforcée qui est en place et j'espère qu'elle va permettre d'empêcher effectivement la propagation de cette épidémie sur le sol français.
Il n'y a pas de traitement de médicaments en l'état pour les malades. Il y a un traitement symptomatique, c'est-à-dire la fièvre, le rhume, les problèmes respiratoires. Vous, effectivement, vous avez séquencé, c'est-à-dire décrypté le génome des souches qu'on a retrouvées sur le couple hospitalisé à Abisha. Ça veut dire quoi? Que vous nous promettez, entre guillemets, un traitement, un vaccin dans les mois prochains? Quelle est la suite?
Alors, pour ce qui est du traitement, il y a deux approches possibles. Il y a déjà l'utilisation de molécules qui sont connues. Par exemple, il y a un traitement du VIH qui a été essayé chez des patients en Chine et dont on aura bientôt les résultats pour voir s'il a un effet ou pas. Il avait déjà été essayé pour le SRAS il y a 17 ans. Il y a aussi la possibilité de découvrir de nouvelles molécules. Non seulement on a identifié la séquence, comme on vous le mentionnait, mais on a aussi isolé le virus à l'Institut Pasteur. Ça a été annoncé vendredi. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut faire pousser en culture ce virus et on peut, par exemple, tester in vitro des molécules pour voir si elles inhibent ou pas la croissance de ce virus. Donc on a maintenant un nouvel outil à notre disposition qui va nous permettre d'avancer plus vite sur la recherche de nouvelles molécules. Mais quand bien même on trouverait une nouvelle molécule, il faut après passer chez des essais chez l'homme. Soit c'est une molécule connue, on connaît sa toxicité, on peut passer tout de suite à la phase 3 pour voir si elle est efficace chez les patients. Soit c'est une molécule dont on ne connaît pas encore la toxicité et on doit passer par des phases préliminaires pour voir, avant même de l'essayer chez des patients, si elle n'est pas toxique pour l'homme.
Dernière question toujours cruciale quand il s'agit d'un virus. Est-ce qu'il peut muter?
Alors c'est un virus qui peut muter, c'est un virus qui est à ARN, donc on sait qu'il fait des erreurs quand il se copie. On a des milliards de virus dans notre organisme quand on est infecté, qui se répliquent. Et oui, c'est un virus qui va s'adapter à son nouvel hôte, parce qu'on sait qu'il est arrivé à la mi-novembre à peu près chez l'homme. On a grâce aux séquences génétiques une idée du moment où il est arrivé en population humaine. Il est en phase d'adaptation. Curieusement, il mute peu pour l'instant, mais on le suit très près.
Donc la vigilance reste de mise, évidemment. Merci beaucoup Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce midi pour nous parler de ce coronavirus. Merci infiniment.
Merci.
On va parler dans un instant. Vous allez retrouver après 13h les carnets du monde de Sophie Larmoyer. On parlera du premier week-end post-Brexit en Grande-Bretagne, du coup d'envoi des primaires démocrates en ce début d'année présidentielle aux États-Unis. Ce sera dans l'État de l'Iowa. Et du microbiote, ces bactéries très à la mode pour nous soigner. On ira faire un tour au Sénégal. Vous comprendrez pourquoi.